France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Jusqu'à présent, les choses étaient simples, nous dit-on. Chaque espèce est coincée dans une niche écologique et s'adapte à ce monde-là. L'adaptation darwinienne ne connaît que la niche, déterminée par les pressions de l'environnement où chacun survit contre les autres. Il y avait bien quelques exceptions, des animaux qui sortaient du cadre, mais le néo-darwinisme leur donnait des dérogations exceptionnelles à condition qu'elles soient utiles, et n'y revenait plus. Du coup, les loutres et les hérons pouvaient utiliser des outils, les abeilles pouvaient polliniser, le castor pouvait construire ses barrages, chacun modifiant son propre environnement. S'il y a bien quelque chose d'intéressant, c'est en effet de changer de monde. On pourrait penser que l'humain est un travailleur acharné qui sait bouleverser la nature pour l'améliorer et pour l'aménager. Au point même, a-t-on affirmé, que l'évolution n'aurait plus de prise sur les humains, capables d'éviter le froid grâce au chauffage, de manger grâce aux cultures, de domestiquer des espèces et de lutter contre les maladies. Cette hypothèse reconnaît donc, contradictoirement, que de simples modifications des bornes de la niche écologique viendraient forcément perturber toute l'évolution. Or, voilà bien que les animaux savent aussi construire des pans entiers de leur niche. Les fourmis à tas, par exemple, les coupeuses de feuilles, cultivent des champignons nourriciers et se fabriquent tout un monde à elles. Tout comme les éléphants ouvrant des clairières en abattant des arbres. Ce qui change considérablement l'idée d'une évolution linéaire en apportant une nouvelle contribution non darwinienne, un nouveau processus écologique. Nouveau, pas tant que ça quand même. Il y a longtemps qu'on sait que les vers de terre altèrent l'habitat des autres. On sait combien le rhinocéros brutalise son milieu, combien le castor remplace son environnement. Ces animaux étaient des ingénieurs, nous dit-on, des espèces ingénieurs, quelques espèces particulières qui s'adaptaient en modifiant les conditions des milieux. Mais voilà, plus on étudie la nature, plus on découvre que ces animaux-là sont finalement bigrement nombreux, au point que chaque jour, on en recense davantage. Et si finalement les animaux construisaient eux-mêmes leur propre niche? Seulement voilà, en modifiant leur propre niche, les espèces bouleversent aussi celle des autres, puisque tout se tient en écologie évolutive. C'est là où la théorie dite de la construction de niche perturbe considérablement le néo-darwinisme. Car, Corneguidouille, il faut bien comprendre ce que nous disent la taupe et le castor. En réorganisant mon habitat, je change celui des autres. Je change donc l'évolution des autres et je transforme aussi toute la planète. Imaginez, en exhalant de l'oxygène depuis la nuit des temps, les cyanobactéries ont tellement remanié la planète que la plupart des espèces respirent désormais ce qui était auparavant un poison. Charles Darwin a développé sa théorie d'évolution biologique à la fois contre Lamarck et sans rien connaître de la génétique. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent que l'évolution se définit justement en tant que processus de changement génétique sous l'effet des contraintes de l'environnement. Une idée beaucoup plus lamarckienne qu'il n'y paraît, puisque Jean-Baptiste Lamarck avait imaginé que l'évolution des espèces se faisait sous l'effet des circonstances comme il l'a écrit lui-même. Voilà bien de quoi se mettre à penser sur Radio Libertaire et savourer comme une gourmandise tout cela en parlant de l'écologie évolutive et avec les idées de John Elding Smith de discuter de cette nouvelle théorie, la construction des niches.
Nous écoutions la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Nous sommes, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître et sans dieu, sans publicité. Et nous allons aujourd'hui discuter de la niche écologique et de la construction évolutive du monde. Bonjour Thierry, bonjour à tous et toutes. Alors, chacun déjà devine à l'écoute que parler des niches écologiques va avoir quelques conséquences sur notre conception du monde.
Eh oui, bonjour Siona, en effet. Cette conception de la niche écologique a une histoire édifiante qui va nous faire passer de l'écologie vers l'évolution biologique.
Pourtant, au départ, nous en avions parlé dans une émission déjà, l'écologie est très loin d'être en accord avec l'évolution. Bien au contraire, l'écologie des débuts va dénier un rôle à l'évolution.
En effet, Siona, la grande majorité des chercheurs en écologie au XIXe siècle n'abordent même pas le darwinisme, on va dire quasiment jusque dans les années 60. En fait, Darwin ne se situe même pas dans une perspective proto-écologique. Il ne confère aucun rôle aux facteurs de l'environnement puisqu'il ne parle que d'external condition, il ne sait pas ce que c'est qu'un habitat ni même un environnement. Les premiers fondateurs de l'écologie moderne, comme Moebius par exemple, n'inscrivent donc pas leurs travaux dans un cadre darwinien, mais plutôt dans celui d'une biogéographie qui s'intéresse plus à l'adaptation des organismes qu'à l'analyse des processus d'adaptation.
Mais l'écologie, qui s'intéresse aux communautés et aux successions végétales, va forcément parler des adaptations des organismes. Comment se passe cette introduction de l'évolution en écologie ?
Eh bien, c'est dans une petite revue d'ornithologie que Joseph Grinnell, un chercheur californien, en 1917, va inventer le concept de niche écologique. Il y pense à partir de l'hypothèse de Darwin, cette hypothèse dite de l'exclusion compétitive. Chez Darwin, deux espèces sont ainsi définies comme se partageant des ressources pour diminuer leur compétition. Ainsi, deux types d'arbres poussent dans le même boisement, mais chacun dans sa niche écologique propre, par exemple en fonction d'un gradient d'humidité ou de lumière. Alors ce processus appliqué sur de longues périodes marquerait la formation de nouvelles espèces, puisque deux espèces vont se séparer au fur et à mesure qu'elles exploitent des ressources différentes. En gros, deux espèces ne peuvent pas occuper une même niche écologique, et c'est la sélection naturelle qui ne va retenir que l'espèce la plus adaptée, la mieux adaptée, à un environnement particulier. Toute la divergence évolutive entre les espèces est donc comprise comme le résultat de la séparation écologique d'une espèce primitive en deux nouvelles espèces, ou du moins de l'une qui va manger l'autre.
Alors, le terme « niche écologique » devient un concept intéressant en biologie.
Alors oui et non, car ça reste une conception très statique, qui repose sur l'observation très simplifiée des interactions que les organismes vivants ont entre eux. La biogéographie, c'est-à-dire l'occupation d'espace par des espèces, est en plein essor à cette époque-là. Et si Élisée Reclus va clarifier la mésologie, le fait que les espèces se partagent fonctionnellement dans des milieux différents, ce sera quand même le vague terme d'écologie qui sera retenu par les biologistes. Les espèces évoluent et s'excluent les unes des autres en fonction de leur niche écologique, vue un peu comme un principe d'habitat, en vertu du principe d'exclusion compétitive. Le terme concerne aussi bien d'ailleurs l'habitat que la fonction d'espèce, c'est un peu mélangé. On dit par exemple que le renard occupe une niche généraliste, tandis que la taupe est plus spécialisée. La niche écologique est devenue un des concepts théoriques majeurs de l'écologie qui va traduire la place, la position occupée par un organisme à l'intérieur d'un écosystème.
On reconnaît donc que les espèces sont des préférences. Le darwinisme est intégré à la théorie des écosystèmes, hein ?
Il faut dire que ces premiers concepts biogéographiques, les espèces utilisant préférentiellement tel ou tel environnement en fonction d'un gradient d'humidité, de lumière, etc., ça se prête très bien au darwinisme, puisqu'il y a ici une idée de compétition. Alors que l'écologie s'est à l'époque développée en dehors de références darwiniennes, puisqu'elle préférait l'équilibre des espèces à leur évolution, eh bien, la différence entre la niche écologique et l'habitat va tenir à très peu de choses en soi. La niche va juste ajouter la fonction supposée de l'espèce. Alors, ce qui n'est pas facile. Par exemple, on pouvait considérer que les hyènes étaient des animaux charognards. On sait aujourd'hui que ce sont plutôt des prédateurs. Et donc, leur rôle écologique, leur fonction, est beaucoup plus complexe dans l'écosystème de savane que ce qu'on pouvait supposer quand on en faisait de simples charognards. Mais en introduisant ce mode de la niche écologique, on ne reconnaît pas tout à fait le même type d'équilibre, puisque c'est un équilibre par concurrence. Et les auteurs reconnaissent officiellement que la compétition darwinienne serait finalement le fondement absolument nécessaire des relations que tous les animaux ont entre eux.
Et oui, donc pour le darwinisme, la concurrence est une force, un processus évolutif qu'on trouve dans la conception de la niche écologique.
Oui, parce que le postulat de la niche écologique, c'est que deux espèces qui auraient la même niche ne pourraient pas coexister dans la nature. La niche est donc un mode qui, selon les écologues, est quelque chose de préexistant dans la nature. La niche existe, elle est définie avant même que les espèces ne l'occupent.
Oui, la niche explique bien que les espèces se partagent les ressources dans la nature.
Voilà, la niche est un concept de partage des ressources par concurrence. Mais la compétition est loin d'être la seule interaction dynamique entre les espèces dans la nature. Il existe en fait beaucoup d'autres interrelations. La prédation, le mutualisme, les symbioses, on en a parlé déjà pas mal d'ailleurs. Alors que le concept de concurrence va permettre d'inscrire l'écologie dans la matrice du darwinisme. Et c'est ce seul concept qui va agir. Comme en théorie, deux espèces ne peuvent pas occuper une même niche écologique, la sélection naturelle ferait que seule l'espèce la mieux adaptée, la meilleure des deux espèces pour cet habitat, va survivre dans la lutte pour la survie. C'est ce qui expliquerait, la distribution des espèces différentes dans la nature, car deux espèces peuvent occuper un même territoire, mais à la seule condition qu'elles occupent des niches écologiques différentes.
Chacun sa niche, hein. Et oui, les espèces peuvent ainsi se partager des ressources, mais par la suite, il y a bien une conception des relations écologiques entre les espèces.
Oui, alors il faut quand même bien se souvenir que le concept de niche est préexistant, il est statique, il existe avant les êtres vivants. C'est ensuite ces êtres vivants qui, par leurs relations, vont obliger les chercheurs à faire évoluer le concept de niche écologique en niche fonctionnelle. Que ce soit chez un auteur comme Grinnell, par exemple, ou encore comme chez Elton en 1927. La niche écologique reste une place qui préexiste dans l'écosystème, indépendamment de son occupant. La nourriture est d'ailleurs en général l'aspect majeur de cette niche écologique. Mais peu à peu, on va aussi définir la niche par des facteurs dits de micro-habitat. Et puis petit à petit, on a fini par développer d'autres concepts. Par exemple, dans les années 2000, on est en train de développer maintenant le concept d'enveloppe écologique. Tout ça dans le but de moderniser la notion qui est trop en plein de vieux darwinisme. Et puis pour intégrer d'autres paramètres, notamment les fameux paramètres d'interdépendance des espèces entre elles. L'enveloppe écologique est ainsi un phénomène plus complexe et qui semblerait mieux définir ce qu'est réellement une espèce. Mais c'est une tentative d'introduction de ce que je nomme l'écologie évolutive, mais cette tentative est encore bien loin de bien opérer. Car dans tous les cas, la niche écologique reste une sorte de place qui va préexister dans l'écosystème indépendamment de son occupant. Il s'agit toujours d'appliquer le principe darwinien d'exclusion compétitive à la nature.
L'exclusion compétitive darwinienne est donc une base de ses premières conceptions dans les années 60, mais il va y avoir d'autres développements, d'autres façons d'envisager la niche écologique.
Et oui, Siona. Alors en fait, il faut bien voir qu'il y a plein d'autres modèles pour cette notion de niche écologique, mais que ça ne va jamais changer fondamentalement le concept qui est d'abord basé sur la concurrence entre les êtres vivants. Par exemple, on en fait beaucoup de bruit autour de cet auteur, le concept va être mathématisé par George Hutchinson en 1957. Or, Hutchinson, dans sa fameuse conception de la niche écologique définie comme un volume patatoïde à n dimensions, où chaque dimension va exprimer une dépression de l'environnement, la lumière, la température, l'humidité, les ressources alimentaires, les autres partenaires, etc. Or, cette idée est répétée et répétée comme si elle apportait une conception nouvelle à la niche écologique, alors qu'il s'agit surtout d'une définition plus étendue, mais qui reste purement statique et descriptive. La niche d'une espèce est ici réduite à l'espace dimensionnel que chaque espèce peut occuper sous l'effet des contraintes de la nature. Toute espèce est donc obligée de trouver une place dans sa niche. Et chacun se partage ainsi des ressources disponibles. Donc on voit bien que chaque espèce a une niche. Mais cette notion reste encore assez naïve par rapport à la véritable coexistence avec toutes les interrelations que toutes les espèces intègrent dans la nature.
Finalement, la notion de niche de Hutchinson reste donc très classique.
Oui, oui, parce que les modèles de définition de niches écologiques vont établir un lien entre la répartition géographique d'une espèce et puis les caractéristiques de ce qu'on appelle l'habitat, les ressources. Mais même comme ça, la niche reste un concept purement théorique, une sorte de schéma descriptif pour lequel on essaye de décrire la position spatio-temporelle des espèces dans cet écosystème et de répertorier l'ensemble des conditions vitales des organismes. Alors comme il y a énormément de conditions, en général on ne fait pas le répertoire de toutes les conditions, on va en prendre des conditions dites majeures, mais on va vite se rendre compte que la niche écologique n'a rien d'un élément statique. Elle décrit une réalité qui est beaucoup plus dynamique, qui évolue avec le temps, la réalité fonctionnelle de chaque être vivant.
Plus complexe. Comment cela ? La niche écologique paraît une dimension très stable dans la nature. Chacun possède sa niche à lui, non ?
Alors une espèce peut pourtant occuper successivement ce qui apparaît comme des niches écologiques différentes, ce qui déjà pose un véritable problème. En général, ça va dépendre de son stade de développement. Les chenilles, par exemple, n'ont pas la même niche écologique que les papillons, même si c'est des chenilles de la même espèce que le papillon qui viendra. On constate donc combien le concept de niche écologique va être difficile à appliquer d'une manière statique, car la niche évolue dans le temps et dans l'espace. Enfin, par exemple, le tube digestif d'une espèce ou d'un animal est la niche écologique d'un peuplement microbien très complexe, dont on ignore en grande partie toutes les interrelations.
La niche n'est donc pas tout à fait une dimension stable, mais elle varie dans le temps.
Et oui, et même deux espèces peuvent adopter des niches écologiques qui vont se chevaucher, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Alors on va parler de recouvrement de niche pour expliquer que ces deux espèces peuvent cohabiter. Ce qui est quand même tout à fait complexe, puisque théoriquement la niche est censée exclure l'autre. Il en résulte que la compétition interspécifique serait diminuée par une concurrence intraspécifique à l'intérieur de l'espèce elle-même. Mais tout ça, ce sont des relations très complexes à définir. Et en plus, des inventions qui essayent d'être collées sur la nature et qui essayent de faire ressortir l'hypothèse de la niche écologique. Car le fait que deux espèces puissent coexister dans la nature pose un problème dans la conception exclusive de la niche écologique. Ça révèle que le concept reste finalement très simplificateur. Il se résume par le fait que chaque espèce est adaptée à des conditions particulières grâce à la concurrence darwinienne.
Oui Thierry, du coup, la niche écologique devient beaucoup plus floue. La niche écologique n'est plus liée à la compétition entre les espèces alors.
Ben voilà, en fait, la coexistence dans une même niche pose le problème de la limitation des ressources que la niche était censée imposer. La niche écologique pose par définition que les ressources sont limitées dans l'espace et le temps. Du coup, la compétition existerait quasiment avant et chaque espèce utiliserait une niche qui serait là par hasard en fonction de sa propre espèce, donc par essence. Évidemment, ça fonctionne que si la niche est préexistante aux espèces, et chez certaines espèces, elles sont elles-mêmes la ressource des autres. Elles font donc partie de la niche des autres. On voit combien la présence des espèces va influencer la niche réelle elle-même et aussi, bien entendu, sa définition. On va être obligé de passer d'une définition statique qui est à la base de l'écologie, la niche va devenir une notion beaucoup plus dynamique, plus ou moins à terme.
C'était Mr. Hyde par alors le groupe Alarstom. Nous voilà revenus dans cette deuxième partie sur la niche écologique où nous allons parler de plasticité, un peu de souplesse. Alors Thierry, que se passe-t-il avec cette conception du partage des espèces ?
Alors oui, c'est pas de la souplesse de gymnastique, hein, on va parler de plasticité phénotypique, un mot qui fait un petit peu peur, mais on va comprendre que c'est assez simple. La notion de niche écologique s'est d'abord définie à travers l'idée de l'exclusion compétitive des espèces. L'exclusion compétitive, c'est que deux espèces ne peuvent pas coexister dans la même niche, l'une va forcément dépasser l'autre par compétition, par concurrence, ou même elle va la détruire. Cette notion reste donc assez économique. C'est pourquoi elle est appliquée facilement dans le monde marchand. On va parler d'entreprises qui font des études de marché pour trouver une place dans la concurrence économique. On va dire qu'ils ont une niche particulière. S'il y a un créneau, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il n'y a pas de demande, l'entreprise va être vouée à la faillite. Chaque niche économique va donc être occupée dans cette compétition marchande. Et puis on aura soit cette compétition marchande libérale, et on aura soit des niches libres, soit des secteurs de niche. Enfin, l'entreprise va pouvoir se faire son argent, son économie grâce à ça. On voit donc très vite combien le concept de niche écologique va présenter des limites. Car cette notion de niche écologique censée décrire la nature, elle suppose que les ressources soient limitées, et il s'agit d'une compétition très statique dans laquelle chacun est forcément concurrent de tous les autres dans un cadre, alors là je vais en parler dans un cadre économique puisque c'est le capitalisme, en écologie ça serait dans un cadre énergétique où chacun doit profiter des ressources disponibles. Alors c'est du pur darwinisme, c'est manger ou être mangé. Du coup, des choses comme l'amitié, les relations d'association ne se peuvent être comprises que comme des alliances, des ligues dans une loi de la jungle qui serait étendue à l'univers entier.
Oui, finalement, ce néo-darwinisme de la loi de la jungle s'est imposé en biologie de l'évolution comme la seule explication du monde vivant, alors.
C'est tout à fait ça. Mais c'est pas du tout ce que nous révèlent les véritables études ethnographiques sur l'humain, ni les travaux biologiques. Au contraire, il existe beaucoup plus souvent des cas de coexistence, d'équilibre dynamique, que ce soit chez les animaux que chez l'espèce humaine. Par exemple, une crevette et un poisson, comme le gobie, peuvent cohabiter et développer des activités complémentaires. Donc ils peuvent vivre en commun, la crevette va creuser un refuge et le gobie va monter la garde. En Inde, on a aussi des singes, comme par exemple les langurs, qui vont vivre avec les antilopes chitales. Ça cohabite dans un mutualisme évident, les langurs mangent les fruits qu'ils ont dans les arbres, ils jettent l'enveloppe sur le sol, et les antilopes vont profiter de cette enveloppe. Les singes vont surveiller depuis les arbres l'arrivée éventuelle de prédateurs, tandis que les antilopes chitales, elles, vont surveiller depuis le sol. On voit donc que non seulement il y a coexistence possible, mais que ces animaux vont même réussir à élaborer des mutualismes à partir du partage dans leur micro-niche. Micro-niche, puisque c'est un simple fruit et l'enveloppe de ce fruit.
L'idée que chacun occupe une niche est donc caduque alors ici.
Oui, c'est même plus que ça. On va dire que le principe d'exclusion de la niche dans le darwinisme rend théoriquement impossible à deux espèces différentes d'occuper une niche écologique semblable dans un même écosystème. L'une des deux espèces va forcément éliminer la plus faible, la moins adaptée. Elle sera la meilleure des deux espèces. Mais seulement voilà, la nature ne connaît pas de telles limites et propose une multitude de niches possibles et imaginables. On a donc dû découper ça en termes de micro-niches, et il y a autant d'espèces variées pour les remplir, ces fameuses micro-niches. Par exemple, des poissons dans un étang. Eh bien, ils peuvent changer d'habitat au cours de la journée ou au cours de la nuit, en exploitant des ressources variées, et tout ça, ça peut permettre une cohabitation fonctionnelle entre des espèces différentes. Les espèces ont donc des comportements qui leur permettent de tirer parti des ressources disponibles. En mer, les poissons vont résider, des poissons nomades, comme par exemple les muges ou encore les spicaras, qui vont se déplacer constamment. Alors, ils n'ont pas un lieu de résidence fixe. Et puis il y a des espèces sédentaires, comme par exemple les castagnoles, qui vont monter ou descendre dans la colonne d'eau en fonction du jour ou de la nuit. Bon, les sars, eux, sont des poissons de fond, mais ils disposent d'un grand territoire, entre guillemets. Les rascasses, les murènes ou les rougets vont, elles, au contraire, réduire leur domaine vital à un tout petit trou de roche, mais elles sont capables d'en sortir. Dans le pire des cas, les poissons ne sont jamais dans son abri. Il va rester caché, car c'est la nourriture qui va venir à lui. Enfin, on voit bien que dans ce milieu marin particulier, il y a de multiples niches écologiques et qu'il est bien difficile de raisonner pour savoir ce qui exclut l'autre.
La niche écologique n'est pas visiblement juste une concurrence entre les espèces.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'était une concurrence à l'intérieur de l'espèce pour former chacun sa niche, qui permettait théoriquement la différenciation et qui permettait l'adaptation. Les individus d'une espèce qui n'était pas adaptée à cette niche mouraient. Et puis, une fois qu'on était dans cette niche, les autres espèces ne pouvaient pas y être adaptées puisqu'elles avaient évolué différemment. On voit que théoriquement, la niche serait une dimension de partage et de spécialisation dans la nature. Or, si on regarde une dimension plus petite, la micro-niche, tout va changer. Chez les oiseaux insectivores, on peut ainsi parler de communauté des espèces. Chacun dispose d'une micro-niche particulière et elle empiète absolument pas sur celle des autres. Le rossignol et le rouge-gorge vont nicher au sol où ils chassent des petits insectes. Les fauvettes, elles, vont nicher dans les buissons. Les sittelles et les grimperons vivent sur ou dans les troncs d'arbres. Donc des êtres qui sont apparemment très proches peuvent très bien cohabiter dans le milieu restreint de l'arbre sans pour cela entrer en compétition.
Oui, la description des niches réelles des espèces vient donc perturber la théorie néo-darwiniste.
Alors dans un premier temps, ça semble pas tout à fait comme ça, même si dans la réalité, les micro-niches perturbent totalement cette théorie, beaucoup de chercheurs ne le voient pas. En fait, Siona, la théorie standard du néo-darwinisme reste très simple. Chaque individu montre un succès reproducteur, ce qu'on appelle sa fitness, et ses descendants vont hériter de ses qualités propres. L'hérédité est ainsi conçue comme un héritage des meilleurs gènes possibles, une sorte d'héritage capitaliste. L'adaptation résulte donc de la meilleure survie des individus qui vont présenter de nouveaux changements aléatoires. Les espèces ne s'adaptent pas à leur environnement, il n'y a pas de changement à l'échelle de l'individu, mais des changements aléatoires qui sont à l'échelle des générations. C'est le fameux changement par génération. Seuls les meilleurs individus qui se reproduisent laissent leurs gènes et leurs descendants vont hériter de ces adaptations. L'évolution reste ainsi une amélioration progressive des individus par le flux des gènes de génération en génération. C'est la théorie néo-darwiniste.
Oui, mais cela reste vrai. L'évolution, c'est bien le passage des gènes d'un individu à ses descendants.
Tout à fait. Les gènes d'un individu constituent son génotype. Mais l'expression des gènes, c'est ça qui forme le caractère plus ou moins visible d'un individu.
Et
c'est
cette expression, quelque part.
En quelque sorte, sa physionomie. C'est cette apparence d'un individu qu'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est donc l'ensemble des caractères que les gènes vont déterminer. Même un même génotype peut engendrer des phénotypes différents. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Ou si on préfère, une même espèce avec les mêmes gènes peut produire des individus qui vont être différents en fonction de facteurs de l'environnement. Cette variation de l'expression des gènes peut entraîner la survie ou la reproduction d'individus identiques génétiquement, mais dont l'expression des caractères est très différente. Cette expression des gènes est alors différente d'un individu à l'autre, et donc évidemment l'évolution peut jouer différemment d'un individu à l'autre, même si on a les mêmes gènes. On voit donc que l'évolution ne dépend pas des gènes, mais de l'expression des gènes, et ça va être très différent.
Oui, d'ailleurs on dit souvent que le gène n'existe en évolution que s'il est exprimé, et c'est là qu'il y a encore de la variation.
Oui, parce que les réponses plastiques, à court terme ou à long terme, peuvent contribuer à une occupation beaucoup plus complète des différents habitats dans la nature. Le bénéfice de la plasticité phénotypique, ça réside dans la capacité à pouvoir produire la meilleure concordance possible entre le phénotype et l'environnement dans des environnements différents. Ça signifie que la machinerie responsable des réponses de l'organisme, de ces réponses plastiques, elle est assez efficace. C'est-à-dire qu'elle est capable de prédire suffisamment précisément quelles seront les pressions des différents environnements. Une espèce peut alors présenter une certaine plasticité de son expression génétique qui va favoriser sa survie, même avec des gènes considérés comme moins bons, comme moins adaptés. On est donc très loin, finalement, d'un darwinisme pur. Alors, néanmoins, les contraintes écologiques et évolutives vont tendre à limiter cette plasticité et à la rendre coûteuse en termes évolutifs. N'empêche, la plasticité phénotypique réduit considérablement les contraintes de la niche et favorise tout autant toutes sortes de combinaisons génétiques qui, à long terme, sous l'effet des contraintes de l'environnement, peuvent apparaître.
La souplesse de l'expression des gènes va avoir beaucoup de conséquences sur l'évolution des espèces.
Pas mal de conséquences, oui. D'autant que cette plasticité de l'expression des gènes peut aussi être provoquée par l'environnement social ou par l'environnement écologique d'une espèce. Par les autres espèces le plus souvent. Par exemple, entre prédateurs et proies, ou entre pollinisateurs et fleurs. Par exemple, une fleur peut voir son calice s'allonger en réduisant la possibilité pour que les papillons récoltent son nectar. Mais cette force, à son tour, va faire que seuls les papillons qui ont une longue trompe pourront consommer cette fleur. Ainsi, il peut arriver qu'une seconde espèce, impliquée dans une interaction, réponde aussi à la première espèce en modifiant son phénotype d'une manière plastique. Alors évidemment, tout ça, on voit bien que c'est quelque chose de dynamique et pas statique, contrairement à l'hypothèse de la niche, et c'est ce qui se passe dans les séries de coévolution, par exemple, où chaque espèce va évoluer en fonction de l'autre.
Loin, finalement, de la concurrence qui les anéantit, l'évolution des espèces favorise au contraire leur cohabitation, leur coexistence, en fait.
Voilà, et même au sein d'une même famille d'oiseaux, comme par exemple les hérons, par exemple, on a des solutions qui vont exister pour que chaque espèce existe, des espèces différentes, pour qu'elles puissent exploiter le milieu dans ses moindres recoins. Dans les marais de Grandlieu, par exemple, près de Nantes, on a au moins 5 espèces de hérons différents qui coexistent sans se déranger mutuellement. Dans le cas présent, ce sont des comportements de prédation qui vont caractériser chaque type de héron. On pourrait multiplier à l'infini ces exemples de niches écologiques que la nature mettrait à disposition des êtres vivants. Et en fait, on voit aussi qu'une niche pourrait ne pas être occupée. On va voir tout ça ensemble. En fait, la théorie de l'écologie évolutive que j'énonce, que je défends, va définir que toute évolution est d'abord une coévolution, que chaque espèce dépend des autres, et que l'évolution est déterminée par leur relation écologique, mais au sens le plus large.
I'll sweep out your chimney, yes, and I will bring you flowers, yes, and I will do for you most anything you want me to.
If we live in a cottage, you will feel like it's a castle, by the royal way you're treated and attention shown to you.
I'll be there beside you if you need a crying shoulder, yes, and I'll be there to listen when you need to talk to me.
When you wake up in the darkness, I will put my arms around you and hold you till the morning sun comes shining through the trees.
I'll be right beside you, no matter where you travel. I'll be there to cheer you till the sun comes shining through. If we're ever parted, I will keep the tie that binds us, and I'll never let it break, 'cause I love you. I will bring you honey from the bee tree in the meadow, and the first time there's a rainbow, I'll bring you a pot of gold.
I'll take all your troubles and I'll throw them in the river, then I'll bundle down beside you and I'll keep you from the cold.
I'll be right beside you, no matter where you travel. I'll be there to cheer you till the sun comes shining through. If we're ever parted, I will keep the tie that binds us, and I'll never let it break, 'cause I love you. Yes, I'll sweep out your chimney, yes, and I will bring you flowers.
Yes, and I will do for you most anything you want me to.
If we live in a cottage, you will feel like it's a castle,
by the royal way you're treated and attention shown.
C'était Johnny Cash qui nous interprétait « 'Cause I love you ». Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, « Science en liberté », parce qu'il n'y a pas de science sans liberté. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir que le comportement constructeur des espèces va changer notre idée de l'évolution. D'ailleurs, on dit souvent que l'humain est au sommet des niches écologiques. L'humain occupe quelle niche écologique, Thierry ?
Oh, que voilà une bonne question, Siona. Si l'espèce humaine des origines pouvait être glissée dans une niche particulière, on va dire la savane par exemple, aujourd'hui, rapportée à l'être humain, la notion de niche écologique naturelle ne paraît plus du tout valable. Tout d'abord parce que l'humain construit ses propres conditions d'existence en s'émancipant de son environnement. En se chauffant, il réduit les pressions du froid. En se soignant, il empêche la mortalité par les maladies. En construisant des routes même, il favorise les échanges génétiques entre les humains. Et que dire de l'avion ? Bref, comme l'ont affirmé certaines revues dites scientifiques, l'humain n'évoluerait plus, abrité derrière ces bâtisseurs de niches permanentes et stables.
Oui, des revues de vulgarisation scientifique affirment souvent que l'humain n'a plus d'évolution propre.
Et ce n'est cependant pas vrai du tout, ou du moins c'est une image très réductrice de l'évolution. D'ailleurs, ce sont les mêmes revues qui vont nous dire que l'économie a besoin de niches particulières. Il faudrait là aussi un petit peu s'entendre. Premièrement, parce que même si on stabilise une niche écologique, ben l'évolution reste là. L'évolution, ça dépend pas de la niche, ça dépend de la reproduction de chacun, et donc ici de la reproduction des humains. Chacun participe donc, en se reproduisant, d'une manière aveugle, à cette évolution, s'il se reproduit ou s'il ne se reproduit pas. Il va laisser ses gènes ou il va pas les laisser. Ensuite, nous le verrons, parce que les changements, les constructions, tout ce qui pourrait paraître le génie bâtisseur de l'être humain, eh bien en fait, la plupart des espèces en font aussi. Chacun va un peu construire sa propre niche.
Oui, mais disons que les humains se sont quand même emparés de la planète, c'est le moins qu'on puisse dire, et disposent de toute la nature pour la transformer, surtout depuis le 19e siècle.
Alors, en effet, ça c'est ce que disent les écologistes, les populations humaines étendraient leur niche écologique en prenant celle des autres espèces, leur habitat et leurs fonctions. Ainsi, l'humain serait une sorte de genre, d'espèce destructrice, par essence quasiment. Hein, ça serait la faute du genre humain si les choses se passeraient comme ça. L'humain serait responsable de cet accaparement des écosystèmes. L'espèce humaine s'accapare tout, l'espace disponible de la planète, et surtout marquerait cette planète d'une manière définitive. Voilà même pourquoi certains scientifiques ont nommé Anthropocène cette période de la domination humaine qui se serait déroulée. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, hein. Certains ça commencerait très tôt, d'autres c'est au 19e siècle, d'autres c'est dans les années 50, enfin bref. Dans la chronologie géologique, l'Anthropocène, ou âge de l'humain, aurait débuté en gros quand l'impact des activités humaines serait devenu prépondérant. Alors ce concept est évidemment très discuté, il faudra d'ailleurs qu'on y revienne un jour dans une autre émission.
Tout à fait. On peut quand même dire que les humains se sont emparés de la nature avec l'industrialisation, les effets de pollution. C'est la première espèce qui est sortie de sa niche écologique. C'est ce que disent nombre d'écologistes, non ?
Eh oui, c'est souvent ce discours qu'on entend de la part d'écologistes. C'est une idée de la spoliation de la nature par l'humanité, qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs chez les antispécistes. L'idée naïve, c'est qu'en privant les espèces de leur habitat par l'agriculture, en chassant les prédateurs comme les ours ou les loups, les humains vont s'emparer de toute la nature pour la domestiquer, sans laisser de place aux autres espèces. Ça veut dire qu'on confond l'exploitation des ressources que fait le monde marchand avec l'idée d'un comportement naturel, qui serait propre au genre humain. Non, les humains ne font pas cela. C'est pas vrai chez les Papous, c'est pas vrai chez les Yanomami. C'est au contraire une organisation historique du monde marchand qui, depuis pas mal de temps maintenant, certes, opère un pillage de la nature. En se basant d'ailleurs sur l'idée darwinienne, ou plus exactement ils avaient l'idée avant que Darwin la dise, cette idée darwinienne de la compétition pour les ressources. D'ailleurs, comment donc une espèce pourrait-elle s'extraire de sa niche si cette niche serait une loi de la nature? On voit pas comment l'humain pourrait en sortir.
En effet... Mais il existe des niches écologiques libres. On dit que certaines niches sont vacantes, n'est-ce pas ?
Alors ça, c'est un véritable problème. Le problème des niches libres reste une des questions majeures de la définition de ce que serait une niche écologique. Bon, prenons l'exemple d'animaux envahissants. Il s'agit de nouvelles espèces, d'intrus, comme on les appelle souvent, qui sont venus d'une région du monde et qui vont s'installer dans une autre, en montrant alors une prolifération apparemment inquiétante. Le ragondin, par exemple, c'est un gros rongeur aquatique qui provient d'Amérique du Sud et qui a été importé pour sa fourrure. Mais il est présent maintenant sur nos marais. Échappés d'élevage, les ragondins se sont installés un peu partout en France parce qu'ils n'ont pas rencontré d'obstacles à leur reproduction.
La niche écologique du ragondin dans son milieu, c'est exploiter les zones humides sud-américaines.
Voilà, le ragondin est un animal de zone humide. Le prédateur du ragondin était d'ailleurs l'alligator dans les marais sud-américains. On va dire que le ragondin se situe apparemment entre le rat musqué et le castor en consommant des végétaux différents et qu'il n'a pas de comportement constructeur. Mais justement, l'espèce souffre du froid en France, notamment du gel. Autant le rat musqué et le castor savent aménager des huttes et des terriers pour survivre en hiver, le ragondin, lui, ne sait pas faire ça. Le ragondin se développe donc moins bien à partir du moment où il est au nord de la Loire, alors qu'il se répand beaucoup mieux partout ailleurs. Il fait preuve d'une dynamique incroyable des populations, colonisant chaque marais, chaque rivière. Comment est-ce possible ? Eh bien, pour de nombreuses autres espèces invasives, on dit que le ragondin, comme les autres espèces invasives, va occuper une niche vacante, une niche écologique libre qui ne serait pas occupée entre le rat musqué et le castor.
En effet, le ragondin s'est bien implanté en France. Il a forcément trouvé une place libre, une niche vacante.
Ben voilà où le bât blesse. Parce qu'une niche écologique ne devrait pas pouvoir être vacante. Elle doit exister avant, et c'est elle qui est censée déterminer la position trophique et écologique de chacun. En plus, toute la théorie de la niche écologique est censée être une théorie de compétition, de concurrence. Donc chaque niche devrait être tendue, au contraire. La niche était définie d'une manière extérieure aux espèces, elle était là avant que les espèces l'occupent. Et puis voilà qu'on découvre maintenant qu'il y a un nombre considérable de niches occupées, de niches non occupées, de niches libres, et que plein de nouvelles espèces invasives, ou pas d'ailleurs, pourraient les occuper. Comme si les niches écologiques étaient également plus souples, beaucoup plus larges que supposé. Alors du coup, la pression de concurrence sur la niche écologique, ça apparaît évidemment beaucoup plus faible que ce qui était affirmé par le néo-darwinisme. Mais crois-tu que ça a changé l'esprit des néo-darwiniens ? Non, la concurrence reste toujours pour eux l'élément majeur. Ouais. Or, si cette compétition est beaucoup trop faible pour engendrer la séparation vers de nouvelles espèces, on n'est plus du tout dans une théorie évolutive. Ça veut dire que c'est la base même de l'exclusion compétitive darwinienne qui est ébranlée par le fait qu'il y ait des niches écologiques vacantes. Si des ragondins trouvent une niche vacante, si d'autres espèces peuvent s'installer dans des niches libres sans faire disparaître des espèces déjà installées, eh bien oui, c'est que la niche était libre, et donc là, il y a un vrai problème.
Effectivement, mais cette plus faible concurrence n'empêche pas qu'il peut exister des animaux en compétition dans la nature. Par exemple, le wison d'Amérique perturbe la survie du wison d'Europe dans nos rivières. Les animaux invasifs peuvent exercer des fortes contraintes de compétition sur les autres.
Ah oui, non, mais c'est sûr que la concurrence existe, mais elle n'est qu'un des éléments parmi des tas d'autres. En outre, c'est assez rare que les espèces soient perturbées par la présence d'autres espèces. Là, on parle du wison américain et du wison d'Europe qui n'avaient théoriquement aucune chance de se rencontrer, sinon parce qu'on les a mis ensemble.
Effectivement.
Les chats, par exemple, vont troubler l'organisation des écosystèmes sauvages à cause de leur nombre et de leur activité de prédation. Mais le problème est que s'il existe autant de niches écologiques libres, de niches écologiques vacantes, ça remet forcément en cause tout le concept de concurrence darwinienne qui était censé être très puissant pour pouvoir exclure les espèces par compétition. Et cette exclusion par compétition, c'était censé être le moteur de l'évolution. Alors certes, la compétition est une interaction qui existe, mais elle ne peut pas être l'interrelation majeure qui organise l'évolution des espèces s'il y a des niches vacantes. L'hypothèse un peu naïve est que l'évolution était dépendante de l'exclusion compétitive darwinienne. Cette hypothèse-là ne tient plus debout. L'existence de niches vacantes, de niches libres, démontre que la pression de compétition est beaucoup trop faible, en tout cas beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait supposer. Et ça, sans même qu'on ait pour l'instant parlé d'une modification des niches elles-mêmes.
Mais alors, la niche peut s'élargir, ou même s'il existe des niches libres, c'est peut-être que certaines espèces savent mieux les utiliser que d'autres.
Alors, réfléchissons. On s'aperçoit déjà qu'il y a des tas de niches libres, que la niche elle est très souple et que tout ça c'est très variable. Et si on prend le contraire du castor, on s'aperçoit que le ragondin, lui, n'a pas de comportement constructeur. Il change très peu son environnement. Ce n'est pas un animal constructeur qui saurait modifier sa niche, comme l'humain ou comme le castor le font. Les castors construisent des huttes en hiver, des terriers, des barrages pour conserver un niveau d'eau, accéder à leur nourriture. Le castor peut aussi creuser des petits canaux pour passer d'une zone à l'autre. Tous ces changements sont liés à son comportement constructeur et ça fait de lui un véritable ingénieur. Le castor modifie totalement son environnement et cela profite à d'autres espèces, aux oiseaux, aux insectes, aux poissons qui peuvent exploiter ces zones transformées. Mais si le castor est un animal ingénieur qui change la nature, le ragondin, lui, ne sait pas faire ça. Mmh. Alors comment expliquer que le ragondin prospère en occupant une niche écologique libre qui se répande partout et il est donc évident qu'il échappe à une concurrence? Il n'y a pas de concurrence contre le ragondin, en tout cas pas de concurrence sévère. Il n'y a donc pas d'exclusion de niche, pas d'exclusion compétitive. La théorie est fausse.
Donc le concept de niche n'est pas valable?
En tout cas, cette conception-là de la niche écologique n'est pas valable en effet. On ne peut pas dire que la niche écologique serait une construction individuelle que les individus vont s'emparer de l'extérieur pour être ensuite en concurrence. Que dire des animaux qui, eux, en plus, savent changer leur niche? Que dire de ces animaux qui peuvent aménager leur environnement pour survivre? Car si le ragondin trouve déjà de quoi échapper à la concurrence, il est vraiment vraisemblable que nombre d'animaux qui ont, eux, des comportements constructeurs, des comportements capables de changer les pressions de la nature, ils auront la capacité de construire leur propre niche, aménager leur propre environnement. Et ça, ça change tout dans le processus évolutif. Nous ne sommes plus dans de la compétition ardue. Voilà que la niche écologique n'est plus un ensemble extérieur présent dans la nature et qui imposerait une vive concurrence. Mais au contraire, un ensemble qui peut être vacant, qui peut être construit, réaménagé. La compétition n'est donc pas la force majeure de l'évolution.
Effectivement, du coup, le néo-darwinisme et sa concurrence à tout craint dans une loi de la jungle vont donc ainsi devenir caduques.
Eh oui, le néo-darwinisme devrait être caduc, parce que progressivement, cette notion statique de la niche écologique basée sur le néo-darwinisme montre de plus en plus ses faiblesses. Avec la théorie évolutive étendue, la fameuse Extended Evolutionary Synthesis dans les années 2000, on va peu à peu introduire du constructivisme dans la notion. Et des gens comme Holding Smith, par exemple, vont parler de la théorie de la construction des niches, et on va voir que cette théorie de la construction des niches commence déjà à changer bien des choses.
Que réclame un républicain ?
Que réclame un républicain ?
L'égalité du genre humain !
L'égalité du genre humain !
Plus de pauvres à genoux !
Plus de riches debout ! Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son ! Dansons la Carmagnole, vive le son du canon ! Assaillera, 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 les aristocrates à la lanterne ! Assaillera, 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 les aristocrates et les bourgeois ! Dans la vieille cité française existe une race de fées dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair, dont ses fils naissent sur la paille pour palais ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souper il me rêve un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que nos trembleurs ont dit depuis. C'est la canaille.
Voilà. C'était avec plaisir que vous écoutiez et que nous écoutions sur Radio Libertaire Canaille par le groupe compagnie Joli Môme. Bienvenue à vous, auditrices, auditeurs qui nous rejoignez sur 89.4 Radio Libertaire. Nous continuons avec Thierry Laudet d'évoquer une dimension intéressante de l'écologie, la niche écologique, propre à toute espèce. Nous avions vu que sa conception s'est inspirée du darwinisme et de l'exclusion compétitive et que chaque espèce occupe sa niche propre. Du moins, c'est ce que nous supposions. Car à côté de cette conception statique et extérieure, il y a bien des surprises. Ainsi, il existerait des niches écologiques libres. Qu'est-ce que cette découverte modifie dans la théorie biologique ?
Eh bien, il y en a beaucoup de choses. On l'a vu, ça détruit quand même en grande partie l'édifice du néo-darwinisme qui voulait que cette conception ardue de la compétition au sein des niches pouvait engendrer l'évolution. L'existence de niches écologiques vacantes va changer toute la conception de l'évolution. Dans l'esprit darwinien, l'exclusion compétitive était simple, chaque espèce ne pouvait occuper qu'une seule niche écologique, ou alors elle disparaissait à cause de cette concurrence des mieux adaptés contre les moins bien adaptés. Dans cette hypothèse, la compétition obligeait donc les espèces à exploiter l'hétérogénéité de leur environnement d'une manière plutôt spécialisée. Du coup, chaque espèce s'adaptait à une niche écologique et à une seule, car la niche était là, préexistante, statique et suffisamment étroite pour provoquer une exclusion compétitive qui avait déterminé toute l'évolution des espèces et des êtres vivants. Cette niche, toutefois, pouvait présenter quelques largesses, être parfois plus souple que supposé. Mais tout de même, l'exclusion compétitive entraînait l'évolution de chaque espèce, ce qu'on appelle, si vous préférez, l'adaptation de chaque espèce dans sa niche écologique propre.
Oui, dans cette première conception darwiniste, chaque espèce disposait de sa niche écologique et deux espèces s'excluaient mutuellement.
Et voilà, cette conception très simpliste de l'évolution, déterminée par la concurrence, était supposée faire gagner les meilleurs, ceux qui possédaient les gènes les plus adaptés. Mais voilà, si des niches écologiques sont si larges que d'autres espèces peuvent les occuper, si les espèces sont plus plastiques et qu'elles peuvent modifier leur phénotype pour s'installer dans une niche qui est un peu étroite, ou pire même, s'il existe des niches écologiques vacantes, Ben c'est donc que l'exclusion compétitive darwinienne n'est pas le processus majeur de l'évolution biologique. Il faut le redire, on voit très bien ici que l'exclusion compétitive ne peut pas être le processus majeur de l'évolution. Or, comme le racontait en France, nombre d'espèces nouvelles savent très bien s'installer dans ces fameuses niches écologiques qui seraient libres. Alors il faut donc revoir totalement la conception, peut-être trop statique, de la niche écologique, et par là même complètement changer de point de vue sur ce qu'est l'évolution biologique.
Et oui, le fait qu'il y ait des niches écologiques vacantes permet à des animaux venus d'ailleurs de les occuper. Mais en effet, cela veut dire que le ragondin n'est pas en concurrence dans nos rivières ?
Oui, au minimum, ou voire même que cette compétition serait tellement réduite qu'il est capable d'occuper une niche qui ne dérangerait personne, en tout cas pas les autres espèces. Là encore, le castor va nous apprendre bien des choses. Car on voit que le comportement va devenir un élément majeur de l'évolution. Or, le comportement, c'est quelque chose de choisi. C'est un fait délibéré pour changer la nature. Le comportement d'un animal est voulu. Il n'est plus aveugle au même titre que l'évolution. Le castor fait partie de ces espèces dites ingénieures, comme l'éléphant ou le ver de terre. En construisant et en aménageant son environnement, le castor va modifier les contraintes de son habitat. Il forge son habitat pour le rendre plus favorable. C'est une activité qui est très forte chez le castor. Et en construisant son environnement, le castor va modifier, par exemple, le flux de l'eau. Il va faire des barrages. Il va contribuer à la pousse des solaires hypariales. En faisant ça, il va aussi modifier la température de l'eau, changer la qualité du terrain, ouvrir le boisement à la lumière, favorisant d'autres plantes, bouleversant les populations de mollusques, les populations de poissons, etc., etc.
En quelque sorte, notre ami castor construit sa niche propre en aménageant son environnement pour le rendre utilisable pour lui-même.
Eh oui, mais en faisant cela, notre castor modifie aussi l'espace des autres espèces.
Il y a des conséquences.
Eh oui, le castor va bouleverser tous les paramètres. Et avec le temps, il modifie complètement l'écosystème. Et toutes les espèces qui sont directement ou indirectement associées à son habitat vont alors vivre dans un nouvel environnement, dans un autre environnement. Tout est bouleversé. Et cela évolue en plus avec le temps. Car chaque période connaît une nouvelle modification. Le castor, avec le temps, va encore modifier ses barrages, ses constructions. La niche n'est donc pas extérieure, elle n'est pas statique, elle est au contraire dynamique dans l'espace et dans le temps. Le castor modifie beaucoup son milieu avec ses travaux de terrassement, ses barrages, ses digues, ce qui va nourrir des copépodes, des arthropodes, des oiseaux. Le castor construit des barrages et il modifie en profondeur tout l'environnement de centaines d'espèces, notamment de poissons. Mais aussi, il modifie l'espace et l'environnement de générations futures.
Tout à fait. Donc, le castor comme l'éléphant sont donc des constructeurs de niches au même titre que l'humain qui altère tous les systèmes. Ils vont donc tous transformer la nature.
Alors oui, on voit combien la niche n'est déjà pas une dimension extérieure à l'espèce, mais qu'elle est transformée de l'intérieur et d'une manière dynamique. Eh bien, la construction de niche est le processus par lequel des organismes, à travers leur métabolisme ou leur activité, vont modifier les pressions dites de sélection naturelle dans leur environnement. Ils agissent ainsi sur leur propre évolution, mais aussi sur l'évolution des autres espèces. Du coup, le concept de niche, un ensemble de pressions évolutives, est tout à fait différent de sens dans l'expression « construction de niche » que ce qui s'appelait avant dans le terme originel de la niche écologique, qui était simplement une concurrence. Dans la théorie de la construction des niches, on est en train de réintroduire la liberté dans l'évolution biologique. Loin d'être dépendant de simples déterminismes extérieurs et étroits, loin de rester prisonnier de ses gènes, la niche est devenue une construction délibérée, un choix qui va déterminer l'évolution des espèces.
Il y a donc des implications quasi philosophiques à cette nouvelle conception de niche. La part individuelle, en fait, aussi, des individus, le choix.
En fait, toutes les théories sont toujours liées à leur contexte d'apparition. On voyait la biologie comme un pur déterminisme, sans que la liberté des individus y agisse. On sait déjà, avec la sexualité, on en a parlé pas mal de fois ensemble, que c'était loin d'être vrai. Dans la sexualité, on fait des choix. Alors, il ne s'agit pas d'une liberté à la Leibniz, je peux faire n'importe quoi puisque j'ignore toutes les causes que cela aura, et tous les effets que cela aura. Non, c'est une liberté au sens de Sartre, c'est-à-dire une liberté de choix. Même si ma connaissance reste diffuse de ce qui va m'arriver, je fais des choix. Je décide de construire ou pas, je change mon environnement ou pas, je vais dans une fac ou j'y vais pas, je résiste aux contraintes ou pas. C'est dans ce sens que Sartre, par exemple, a pu affirmer que jamais on n'avait été aussi libre que pendant l'occupation nazie. puisque la visibilité des contraintes et de la dictature obligeait à faire des choix. On pouvait collaborer, ne rien faire ou bien résister. L'obligation de chaque alternative va introduire la liberté de choix. Évidemment, cette liberté n'est pas sans conséquences. Cette liberté ne contredit donc pas le matérialisme biologique, mais il introduit une autre manière d'envisager les êtres vivants. Alors évidemment, cette biologie évolutive est nouvelle, vous savez que je l'appelle moi une écologie évolutive, puisqu'ici chacun est ce qui va déterminer l'évolution de tous les autres.
Mais en même temps, si seules quelques espèces comme le castor montrent une aptitude à construire leur niche, est-ce que cela ne pourrait pas être juste une exception qui ne remet pas tout en cause ?
Alors évidemment, on pourrait le penser comme ça. C'est souvent ce que disent les néo-darwiniens. Il y a des exceptions dans la nature. Sauf que s'il y a des exceptions à la théorie du vivant, ben, c'est que la théorie du vivant ne tient pas. S'il y a des exceptions à la théorie de l'évolution du vivant, ben, c'est quand même qu'il y a quelque chose cloche. Là, on voit bien que la concurrence ne peut pas être la seule force. Mmh. Ça, c'est intéressant. Parce que dans le darwinisme, c'est la seule force. Si les espèces ne rentrent pas dans ce cadre, c'est que la théorie est au moins partiellement fausse. On peut au moins dire ça.
Oui,
en plus, on sait que presque toutes les espèces sont en fait capables de modifier leur niche écologique. Du coup, la théorie devient de plus en plus fausse. En plus, on sait que les espèces sont capables de modifier également leur niche écologique par le fait de construire des terriers, des nids en recyclant des nutriments pour les plantes. Toutes ces modifications ne sont pas forcément favorables, mais elles font partie de choix. Avec le temps, par exemple, les terriers se dégradent, leur atmosphère va être polluée, les déchets peuvent s'accumuler. On voit bien que la construction de niches, ça intervient donc comme un processus dynamique dans l'espace et dans le temps. Et toute cette théorie de la construction de niches, eh bien, dévoile les limites énormes du néo-darwinisme.
Et oui, c'est ce qui veut dire qu'il faudrait donc développer une science des interactions entre les êtres vivants. Mais c'est finalement l'objet de l'écologie d'ailleurs.
Alors, le mot écologie était très mal adapté, mais en effet, l'écologie, c'est cette science des interactions. De nombreux animaux développent des interactions avec les autres espèces. Voilà pourquoi je parle d'écologie évolutive. Il faut se quitter l'interaction uniquement darwinienne de la concurrence pour comprendre qu'il y a d'autres nouveaux horizons. Par exemple, la construction de niches écologiques, c'est probablement l'un des fondements nouveaux de l'évolution. Avec les choix sexuels, avec les transferts horizontaux de gènes, avec l'épigénétique, avec les catastrophes, avec le hasard de la dérive génétique, et d'autres encore éléments, on voit que la construction de niches démontre combien l'évolution alter-darwinienne est importante dans la nature. On a maintenant bien plus de causes non-darwiniennes que de causes darwiniennes.
Mmh.
Par exemple, le castor, va favoriser la diversité des rivières et la diversité des zones humides.
Mmh.
Il va générer l'installation de nouvelles espèces et par son travail remarquable, il va construire sa propre niche. En faisant ça, il change la niche de toutes les autres espèces. En raison de leur tendance à bouleverser l'environnement, on sait que ces espèces pourraient même favoriser l'adaptation d'autres espèces à des changements environnementaux. On parle de résilience grâce à ça. Cette adaptation particulière provient ainsi directement de cette construction de niche. Il s'agit d'un processus de l'évolution qui va associer l'interaction avec le choix des espèces à changer leur environnement, leur volonté à changer leur environnement. Les effets de la construction de niches se font sentir dans leur environnement immédiat, mais peuvent aussi affecter d'autres espèces à des niveaux très éloignés. Les vers de terre et les syrphes, par exemple, vont améliorer les cultures.
Donc, on voit que la plupart des espèces construisent leur environnement et que cela modifie leur niche, et toutes ces transformations changent la théorie de la niche écologique.
Tout à fait, Siona. Nous voilà au seuil d'une nouvelle façon de penser la biologie. Introduite comme une théorie nouvelle qui bouleverserait le néo-darwinisme, la théorie de la construction de niche est un concept de biologie évolutive qui a été développé par deux chercheurs, Holding Smee et Lalande, dans les années 2003, et qui s'intéresse à l'interaction entre les organismes et l'environnement. On voit que nous sommes ici bien dans une écologie évolutive. Depuis le temps que j'en parle, c'est quand même important de le vérifier.
On en parle.
Bye.
En écoutant du Charleston, vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission pour une science critique qui vient nourrir toutes vos petites cellules grises. La niche écologique était considérée comme propre à toute espèce, mais nous avons vu que de nombreuses espèces pouvaient elles-mêmes construire leur niche, ce qui a modifié considérablement la théorie. Cette découverte modifie tout dans la théorie biologique. Alors comment les chercheurs ont-ils pu intégrer cette théorie de la construction de niche telle qu'elle est développée par des chercheurs comme Oldsmead et Lalande?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, le concept de la construction de niche n'est toujours pas intégré à la théorie synthétique de l'évolution. Il faut dire que dans la théorie synthétique, ce qu'on appelle le néo-darwinisme, nous ici, la sélection naturelle constitue un principe unidirectionnel et fondamental. Les réponses des organismes à l'environnement ne sont pas considérées, ou du moins ne sont considérées que comme des anecdotes, dans le meilleur des cas, ou comme une résurgence des thèses de Lamarck, dont les néo-darwinismes répètent chaque jour qu'il n'a fait que des erreurs, etc. Pourtant, un concept comme l'héritage écologique va représenter un processus évolutif véritable.
Un héritage écologique, qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, dans le modèle néo-darwiniste standard, on se souvient que l'évolution est asymétrique. On a d'un côté les pressions de l'habitat, qui vont déterminer la concurrence entre des espèces, ou généralement au sein d'une espèce, et l'une de ces formes au sein de l'espèce va sortir vainqueur. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est donc celui qui va porter les meilleurs gènes en théorie. L'environnement sert ainsi de filtre aux modifications génétiques. Ce sont donc l'environnement, l'habitat, pour le néo-darwinien, ce sont des conditions extérieures. On va reprendre Richard Dawkins, par exemple, pour qui le comportement du castor va résulter de la seule sélection génétique de tous les comportements alternatifs. Il y aurait eu sélection du meilleur comportement possible. Ainsi, pour Richard Dawkins, tout ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'il y a dans le meilleur des mondes possible. On se retrouve avec un pangloss évident. Au contraire, pour la théorie de construction de niche, le castor modifie les contraintes de son environnement. Il agit donc comme un acteur de sa propre évolution, sans compter qu'il agit aussi sur les communautés de plantes, sur la faune associée, et que ces changements vont persister plus longtemps que les individus eux-mêmes. Alors, le castor agit sur sa propre évolution, il ne le fait pas évidemment en sachant vers quoi il va. Il n'y a pas d'envie ou de raison pour le faire. C'est juste une réaction immédiate. Mais ces multiples choix vont évidemment modifier en grande partie son évolution. On voit donc que la construction de niche est un processus évolutif par laquelle un organisme, à travers son métabolisme, ses activités ou ses décisions, va modifier son environnement et celui de milliers d'autres organismes. On rejoint ainsi toute ma théorie de la sexualité qui, effectivement, est fondée sur l'idée que les individus prennent des décisions, des choix. Il s'agit d'une sorte de rétroaction d'une espèce sur son milieu, mais cette rétroaction, elle est transmise aux générations suivantes. Chez le castor, évidemment, de père en fils, on construit et on change son environnement. On va donc parler d'un héritage écologique.
Donc, la construction de niches opère dans le temps, de génération en génération, comme le fait la sélection des gènes dans la sélection naturelle.
Voilà. La conséquence capitale de la construction de niche intervient lorsque des modifications de l'environnement sont maintenues au fil des générations. On parle donc d'héritage écologique. Avec cet héritage écologique, il est donc possible que l'espèce qui modifie son environnement va affecter non seulement ses descendants, mais aussi les descendants d'autres espèces qui vont partager le même environnement. Alors l'exemple peut-être le plus simple, c'est celui qui est donné avec un petit diptère américain, l'Eurosta solidanis, c'est une espèce de mouche qui ressemble un peu aux cynips. Les cynips, ce sont des parasites des chênes, ce qui forment des galles sur les chênes. Là, le cycle complet de la petite Eurosta, il est directement lié à celui d'une plante qu'on appelle la verge d'or. L'adulte va pondre ses œufs dans une tige. La salive des larves induit une multiplication cellulaire de la plante qui va entraîner la formation d'une galle, la même type de galle que ce qu'on voit nous sur les chênes ou sur les aubépines avec les cynips. Mais ici, pendant l'hiver, les larves vont fabriquer des sucres qui fonctionnent comme un antigel dans la plante.
Donc la protège.
La larve vont ainsi construire une niche propre qui va modifier le développement de la plante, qui va la protéger. Mais la plante va aussi participer au déclenchement de l'hivernage des larves. On a donc ici bien un système de rétroaction écologique. Comme ce processus est génétique, on peut parler d'héritage écologique, c'est-à-dire de construction de niche dans le temps.
La notion d'héritage écologique est donc fondamentale pour la théorie nouvelle de la construction des niches.
Oui, Car il ne faut pas seulement qu'il y ait une modification de la niche, il faut qu'il y ait une transmission de génération en génération pour qu'il y ait une évolution. Puisque, on le répète, l'évolution ne concerne pas l'individu, mais toujours ses descendants. C'est toujours une modification pour la descendance. On voit que pour qu'il y ait construction de niche, il faut donc se référer à la manière dont elle va affecter l'évolution propre des espèces, de tous les êtres vivants qui font partie de cet ensemble. Il faut donc réunir au moins trois modalités. La première, c'est que l'espèce doit modifier son environnement en changeant les conditions naturelles. Deuxièmement, il faut que ces modifications influencent les contraintes qui pèsent sur l'espèce et sur d'autres espèces. Et troisièmement, il doit y avoir une réponse de ces organismes alentour causée par ce changement.
Mais l'héritage écologique n'est pas un processus de sélection naturelle, alors ?
Ah non, pas du tout. L'héritage écologique, ça constitue un processus évolutif non darwinien. C'est une réponse de l'organisme à l'environnement, et non pas une pression qui s'exerce sous l'effet de l'environnement. Ces espèces vont hériter non seulement d'un environnement changé, modifié, mais ils vont aussi hériter de gènes différents. Prenons le coucou, par exemple. Le coucou va utiliser une stratégie de reproduction parasite qui est très connue par la plupart des gens qui nous écoutent.
Et oui, c'est un petit coquin. Hein,
voilà. La femelle du coucou pond ses œufs dans le nid. Il y a environ 125 espèces d'oiseaux qui sont parasitées. Et ce sont ces oiseaux qui vont ensuite élever le bébé coucou, le petit coucou. Comme le poussin de coucou est beaucoup plus gros que les oiseaux qu'il parasite, la stratégie parasite du coucou va obliger le jeune néonate à détruire les autres poussins du nid. En général, il les jette du nid pour obtenir assez de nourriture de la part de sa mère adoptive. Il existe donc une forte pression pour que la reproduction des espèces parasitées chute. Mmh. Une espèce qui va élever un coucou n'élèvera plus ses propres oiseaux, ses propres oisillons. Donc, en réponse à l'attaque du coucou, de nombreuses espèces ont appris à rejeter les œufs avant que le coucou naisse. Tous ces œufs qui sont un peu nouveaux vont lui permettre d'être rejetés et donc ces oiseaux vont se débarrasser de l'intrus. Il y a donc un processus de coévolution entre le coucou et les espèces qui parasitent. Du coup, les œufs du coucou sont devenus colorés pour ressembler à certaines espèces ciblées et pour réduire la détection par les oiseaux. Évidemment, cette coloration, elle est transmise génétiquement de coucou en coucou et chaque coucou va être capable, enfin, chaque population de coucou va être capable de parasiter quelques espèces d'oiseaux, mais pas toutes les 125 espèces. Certaines espèces et chaque coucou va changer d'espèce. De plus, l'incubation des œufs du coucou est très brève, là aussi génétiquement, pour permettre aux jeunes coucous de naître avant ou du moins en même temps que les autres poussins.
Il y a donc une transmission de génération en génération ?
Tout à fait. Alors l'héritage écologique ne dépend pas de la transmission des gènes. Hein. Il peut exister des modifications transmises entre les générations des organismes à cause de la construction de l'activité de niche. Mais le processus évolutif de construction de niche n'est toujours pas reconnu par la théorie synthétique de l'évolution. Et si John Holdings-May a reconnu que des organismes ne sont pas passifs et construisent activement leur propre niche, eh bien la reconnaissance de cette théorie en tant que processus évolutif, ça reste toujours contesté par le néo-darwinisme.
Qu'est-ce que les néo-darwinistes craignent de cette théorie ?
Alors, en fait, ils sont très craintifs parce que cette théorie, on l'a vu, détruit l'hypothèse fondamentale et centrale du néo-darwinisme. Donc, les néo-darwinistes vont lui opposer cinq raisons majeures. Premièrement, l'impact des espèces ne serait pas permanent. Ça serait trop transitoire pour devenir un véritable processus évolutif. Alors, sachez que la concurrence, ça paraît tout autant transitoire. Mais bon, d'après eux, non. Pourtant, la plupart des auteurs vont reconnaître que l'humain transforme suffisamment sa planète pour entraîner assez de perturbations sur l'évolution des espèces, et ces perturbations ne sont pas considérées comme transitoires. Mais même les fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, comme Simpson par exemple, un néo-darwiniste bien connu, il écrit que l'homme est probablement le seul animal qui va exercer un degré significatif de contrôle sur son environnement. Donc ça veut dire qu'on reconnaît bien que la construction de niches est possible, au moins chez une espèce, l'espèce humaine.
Effectivement.
Deuxièmement, on ne pourrait pas analyser tous les facteurs de la construction de niches, ça serait trop compliqué. Ben oui, mais c'est pas une raison pour les négliger, je répondrai à ça. En outre, la théorie de la construction de niche souligne comment sont acquis les caractères nouveaux et comment les espèces vont interagir les unes avec les autres. Ça fait partie de la théorie d'écologie évolutive.
Ces deux premières raisons sont donc caduques, c'est quasiment de la mauvaise foi.
Ah oui, là, pour ces deux premières raisons, c'est vrai que l'argumentaire des tenants du néo-darwinisme sont non seulement très faibles, mais tendent vraiment de la mauvaise foi. Voyons les autres arguments. Troisièmement, les néo-darwinistes assurent que la construction de niche n'est pas un processus, mais une simple rétroaction. C'est une petite différence dans les termes, mais qui n'est pas négligeable. En fait, la théorie de la construction de niche souligne, au contraire, que les effets des organismes sur leur environnement sont très importants. Peut-on comprendre l'évolution du lapin sans comprendre l'évolution de la construction des garennes. Cette garenne, c'est le terrier qui est si fondamental dans la vie des lapins. La construction des garennes est un héritage écologique, dans ce sens où il est devenu génétiquement un comportement hérité. Les lapins, même s'ils n'ont pas vu d'autres lapins, savent construire des garennes. Ce qui change fondamentalement l'écologie des nouvelles générations de lapins. Et cela est très différent de ce que vivent d'autres léporidés. Par exemple, les lièvres, eux, ne construisent pas de garennes. La construction de niches influence donc le développement dans le temps. Et puis là, ça agit même sur la vie sociale des espèces. Parce que la garenne, ça impose un comportement collectif, une vie sociale chez le lapin, que le lièvre n'a pas du tout. Il s'agit donc bien d'un processus évolutif.
On constate donc que le processus de construction de niche influence l'évolution, comme pour les lapins.
Et oui, et donc ça sera absolument... on ne pourra pas le nier. Quatrièmement, la théorie synthétique, c'est-à-dire le néo-darwinisme, affirme que la construction de niche résulterait tout simplement d'une sélection darwinienne. Alors ça, c'est l'idée de Dawkins, hein, avec son phénotype étendu, dont l'accent est mis sur l'adaptation. Alors, ce qu'il appelle le phénotype étendu, c'est un concept imaginé par Richard Dawkins, selon lequel le phénotype, on ne peut pas le limiter au résultat de l'expression des gènes. Mais il faut étendre ce phénotype à toutes les manifestations qui en découlent, y compris, bien sûr, les manifestations comportementales. Donc, la concurrence pour l'habitat est considérée comme un peu atténuée, mais la sélection favoriserait toujours cette amélioration génétique des individus, et même si Dawkins dit « oui, c'est pas les meilleurs gènes, c'est simplement les gènes les plus adaptés », bon, franchement, ça se ressemble beaucoup tout ça, on reste dans un darwinisme très strict. Au contraire, la théorie de la construction de niche annonce qu'il existe des corrélations entre les gènes et l'environnement. Par exemple, la digestion du lactose et son intolérance vont dépendre à l'origine d'un gène qui est associé à des communautés pastorales. Ce n'est pas une adaptation au sens vrai, c'est juste un effet rétroactif, mais quand même sur plus de 300 générations. Il s'agit bien d'un changement induit par l'environnement, même si les néo-darwinistes protestent parce qu'ils disent « oh, cette manière de penser, c'est du lamarckisme ». En fait, toute idée d'une influence à rebours de l'environnement vers les gènes est toujours combattue par les néo-darwinistes, alors que nous en avons des centaines de milliers d'exemples.
Bien que là, le processus est clairement un effet en retour.
Ah ben oui, en effet, on ne peut pas dire le contraire. Et il y en a plein de choses comme ça, on en avait déjà parlé sur les souris et plein d'autres espèces. Enfin, cinquièmement, le concept de construction de niche est contesté par les néo-darwinistes parce qu'il ne donnerait pas d'adaptation, contrairement au processus darwinien de sélection naturelle. Alors évidemment, si l'adaptation signifie accommodation d'une lignée à un habitat donné, le concept de construction de niche ne dit pas qu'une lignée serait avantagée dans un habitat donné. Au contraire même. On n'y retrouve donc pas un bénéfice évolutif qui est si important à la concurrence dans la sélection naturelle où les meilleurs sont toujours les meilleurs. Là, on est complètement au contraire de tout ça. Car le concept explique beaucoup plus largement des adaptations et des rétroactions entre les espèces et leur environnement. Des souris, par exemple, se sont adaptées dans un environnement changé par les humains. On voit bien que les souris sont capables maintenant de vivre autour des humains, parce qu'elles ont changé, elles ont modifié des gènes liés par exemple à leur stress. D'autres auteurs, comme par exemple Stronen en 2004, ont découvert que des populations de loups avaient changé leur niche écologique en s'adaptant à une vie au bord de la mer. Ils mangent du poisson, ils capturent des coquillages. Même le coloris de ces loups a changé, ils sont plus roux. Et ces animaux qui vivent dans l'ouest canadien ont génétiquement changé avec cette construction de niche. Alors on sait que Darwin pensait que les vers de terre avaient été sélectionnés en creusant dans différents sols, mais les gènes des vers de terre sont-ils le résultat de comportements qu'ils ont changés dans les sols, ancestraux, des sols qui n'existent plus? Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est le sol qui a provoqué le changement, ou est-ce que c'est le ver qui a modifié la structure des sols? On voit bien combien Darwin se fourvoyait.
Mais d'accord. Mais la construction de niches écologiques est-elle pour cela un processus répandu?
Alors il faut bien comprendre que c'est une autre des critiques que fait le néo-darwinisme à la construction de niches. Ça sera un phénomène rare, concernant que quelques espèces, des espèces exceptionnelles. Bon déjà, quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils reconnaissent que le processus est possible. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de nombreuses espèces végétales ou animales dépendent étroitement de leur construction de niches. Par exemple, la construction de niches chez les oiseaux, c'est bien un héritage écologique. Chaque oiseau sait le construire d'une manière particulière. C'est vital pour de nombreuses espèces. Ainsi, comme le dit par exemple Kevin Lalande, hein, il est grand temps de repenser la théorie évolutive, d'introduire une nouvelle synthèse évolutive qui incorpore en fait tous ces faits d'évolution. Car on a vu qu'il y avait plein d'éléments alter-darwiniens, non-darwiniens, qui sont nécessaires pour comprendre l'évolution des espèces. Quoi qu'il en soit, le processus de construction de niches nous rappelle que l'évolution reste d'abord quelque chose d'écologique, qu'un organisme n'évolue jamais seul. L'évolution, c'est bien le résultat de multiples interactions biologiques entre les espèces, entre les êtres vivants. Et l'évolution s'explique beaucoup plus clairement par ce que j'appelle l'écologie évolutive que par un darwinisme naïf. Le rôle décisif de toutes les interactions entre les organismes est de plus en plus reconnu comme le processus majeur de l'évolution biologique. On voit même ici que chacun construit sa niche et que chaque bouleversement construit une évolution alter-darwinienne.
Prochain morceau s'appelle Agro-Business. Alors c'est parti!
Aujourd'hui le souci de l'esthétique ne rime plus qu'avec enjeux économiques. L'horizon est sombre, devient plutôt vibro, noircissant à l'ombre de leur putain de silo. Bienvenue en agro-business, où la loi du rendement fait des prouesses. Bienvenue en agro-business, recette de la co-performerie.
C'était un groupe breton Trousaznoz qui interprétait Agro-Business.
Il ne faut pas regarder l'éléphant comme un pachyderme, ni le castor comme un simple rongeur aquatique. Les animaux ne sont pas seuls, et sont avant tout des constructeurs, des ingénieurs de l'environnement. En travaillant la nature, ils entraînent toute une série de changements pour les autres espèces. En modifiant les communautés végétales, ils réinstallent et réinvitent des milliers d'autres espèces à les rejoindre, depuis la libellule jusqu'au vison. Pourtant, la controverse des néo-darwinistes contre la théorie de la construction de niches démontre combien la vision simplifiée d'une évolution qui profiterait aux meilleurs continue de polluer la réflexion évolutive, instaurant toujours plus un darwinisme social. Le castor nous répond : l'humain n'est pas le seul à modifier son environnement. Une chose est certaine, notre évolution dépend des autres espèces, comme nous le racontent les animaux ingénieurs, et l'évolution est le fruit d'une écologie évolutive. La théorie de la construction de niches et l'héritage écologique sont aussi particulièrement pertinents pour l'espèce humaine qui s'est engagée dans un processus très généralisé de transformation de son environnement. En privilégiant la concurrence darwinienne dans les écoles, contre l'association des élèves, contre les interactions, les humains bouleversent la planète. On sait encore peu de choses sur les effets de la construction de niches. Ce que l'on définit parfois comme des pratiques culturelles, des arts de la civilisation, pourrait bien n'être que le résultat d'un processus biologique, c'est-à-dire de choix particuliers que l'humanité pourrait avoir à regretter à terme, choix particuliers engendrés par le capitalisme. Voilà encore un processus non darwinien qui nous expose notre histoire différemment de la sélection darwinienne. Voilà encore une piste qui nous démontre combien nous sommes liés à la faune, à la flore, et combien notre avenir dépend de notre capacité à le comprendre. Pourtant, le monde marchand se régale de prolonger encore et encore l'exploitation du monde. Sans doute ne faut-il y voir dans ces sursauts du capitalisme industriel et de la marchandise qu'un relent putride des vieilles théories néo-darwinistes où chacun doit survivre en combattant les autres. Il est grand temps de repenser la théorie synthétique de l'évolution. Il est grand temps de faire que la théorie de la construction de niches, qui est largement étayée par tout un ensemble de faits empiriques, soit au moins présentée. Sa grande valeur heuristique devrait attirer l'attention des chercheurs et des écologistes vers des travaux différents, vers des travaux nouveaux, où l'écologie évolutive deviendrait enfin la science de la réconciliation des humains et du monde. Alors le castor et sa construction de niche ouvriraient vers des milliers d'autres possibles, une nouvelle écologie évolutive, vers un autre monde, peut-être même, pourquoi pas, vers un monde plus libertaire.
Et oui, nous pouvons rêver. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Shahidi. Et nous allons conclure sur Millions of Stupid People par Starch Bottles, 20 ans d'antifascisme radical.
They're following stupid leaders like sheep. They think they've got the choice, but they don't realize. 'Cause they're fucking stupid.